crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs.
Et aujourd'hui, nous observons ensemble un étrange tableau, la Déposition, peinture à l'huile sur bois, datant de 1526-1528 environ, et réalisée par le peintre toscan Jacopo Pontormo. Cette œuvre mesure 3,15 m de haut sur 1,92 m de large. Elle est visible dans la chapelle Caponi de l'église Santa Felicita de Florence. Et en effet, à l'intérieur de l'église Santa Felicita de Florence, à droite, à l'entrée, la chapelle Caponi qui fut conçue par le grand architecte de la Renaissance, Brunelleschi, vers 1420. Lumineuse, couverte d'une coupole à pendentif, éclairée par une seule fenêtre, sa décoration fut réalisée 100 ans plus tard par Pontormo. L'œuvre que nous regardons est un des éléments de cette décoration et elle est complétée par une annonciation à fresque probablement. Un vitrail disparu qui n'est pas de Pontormo et qui représentait une mise au tombeau, ainsi que 4 médaillons représentant les évangélistes. La peinture de la coupole qui devait représenter le Père éternel et les prophètes a disparu. Le point majeur de cet ensemble est donc une huile sur bois présentant 11 figures superposées dans l'arche que dessine un cadre doré. L'œuvre est composée d'une scène spiralée dans laquelle la descension et l'ascension s'opposent, si l'on peut dire. Cette sainte foule est regroupée dans le tableau de façon à ne composer qu'un seul corps et à occuper toute la surface. Seul un nuage brun rosé occulte en haut à droite ce qui aurait pu être une perspective. Le spectre coloré de l'ensemble est étrange, constitué de tons clairs et acidulés, rose pâle, bleu pâle, orangé, vert amande, jaune anisé, pervenche, ocre clair permettent de dissocier les personnages regroupés par la composition. Au centre, légèrement basculé vers la droite, la Vierge appuyée sur Marie-Madeleine, qui nous tourne le dos, laisse glisser le Christ que deux garçons, ou anges, semblent retenir sans effort. Au-dessus d'elle, Jean bascule vers l'avant, surplombant la mer, les bras écartés. Les saintes femmes, Joseph d'Arimathie, tournent leurs visages éplorés dans des directions diverses et parfois contradictoires. Il n'y a ni croix ni tombeau visible dans l'œuvre, ce qui ne peut manquer d'interroger, à moins que la table de l'autel qui se trouve exactement au pied de la peinture ne soit l'expression du sépulcre. L'énigme de ce chef-d'œuvre est peut-être élucidée par les éléments du décor qui l'accompagnent. C'est ce que nous devons examiner avec l'œil exquis de Philippe Costamagna.
On dit un œil, des yeux. Je voudrais, moi, vous parler d'un métier insoupçonné et fascinant, celui des œils. Ce nom peut sembler surprenant et fautif, mais il serait impossible d'exprimer justement avec d'autres mots ce que certains historiens d'art font au quotidien. Si l'historien d'art, disons classique, comme le musicologue ou l'historien de la littérature, peut se contenter de recourir à une riche bibliothèque et à une vaste banque d'images, celui que j'appelle œil a pour fonction de découvrir des paternités au tableau à partir de son seul regard. Sa tâche est de voir. Philippe Costamagna, Histoire d'œil, 2016.
Cher Philippe, bonjour, je suis ravi de vous rencontrer à nouveau. Vous avez eu la gentillesse il y a quelques mois de venir ici pour nous parler de Bronzino et élucider les mystères d'un tableau. Comment s'appelait ce tableau d'ailleurs ?
C'était l'allégorie de Vénus de la National Gallery de Londres. C'était un tableau extraordinaire, mais c'est
un peu
vous
audacieux.
Vous me faites parler,
hein,
de toutes mes passions, je suis ravi.
Bronzino, Pontormo, il y a une relation évidente, hein, on est dans une
de
période.
De maître à élève.
Hein, de maître à élève. Donc Bronzino, pour les mettre dans le bon ordre.
Était l'élève de Pontormo.
Et donc on entendait à l'instant un extrait du livre que vous avez publié au printemps dernier, qui est un livre formidable. J'y ai passé un été exquis. Il s'appelle Histoire d'œil. Il a été publié chez Grasset. Et vous y racontez un métier, au fond, ou un talent. Est-ce que c'est un métier ou est-ce que c'est un talent?
Alors moi, je ne parlerai pas de métier, en fait. C'est vrai que j'ai mis dans l'introduction le mot métier, mais pour moi c'est un talent effectivement, comme vous le savez d'ailleurs, parce que c'est
ou c'est une particularité physiologique.
Probablement, parce qu'on est certaines personnes sont douées d'œil, d'autres pas. On s'en rend compte avec le temps qu'on est doué d'œil, parce qu'au départ on est tous pareils, on regarde, on voit, on engrange des tableaux, et ça dépend après aussi de sa formation dans l'histoire de l'art, mais à certains moments on cherche à attribuer. Et on est capable, on n'est pas capable. Et avec le temps, moi, je me suis rendu compte que je pouvais être capable d'attribuer.
Vous êtes le cobaye idéal pour une émission qui s'appelle Les Regardeurs.
Ah oui.
Et alors, vous, puisque vous racontez cela dans votre livre, peut-être on peut y revenir avant de se lancer dans l'examen de ce tableau étrange, la déposition. Il vous est arrivé à plusieurs reprises d'attribuer, et il y a l'une des fois qui a été très retenue par l'univers,
l'histoire de l'art.
Par l'histoire de l'art.
Et parce que en fait,
racontez-nous parce
non,
que
oui,
c'est
parce qu'on cherche, on attribue, on cherche pas à attribuer forcément des chefs-d'œuvre ou pas, on cherche des noms. Enfin, quand on est jeune, on cherche des noms peu connus d'abord parce que c'est la manière de s'imposer. Et par hasard, un jour, j'étais avec un ami à Nice au Musée des Beaux-Arts, musée connu pour sa peinture plutôt mondaine du 19e ou les peintres académiques ou pompiers. Nous sommes là vraiment par hasard. Au milieu de ces tableaux s'est trouvé un grand Christ en croix, absolument magnifique, sur lequel tombait un rayon de soleil, ce qui ne se fait pas dans les musées. Comme vous
c'est vraiment un signe désastre, en fait.
Un signe désastre. Et ce rayon de soleil, et c'est vrai, tombait sur les doigts de pied.
Vous voulez me faire croire qu'avec un doigt de pied, vous reconnaissez un auteur?
J'ai reconnu l'auteur. Nous avons reconnu, parce qu'on a eu la même impression au même moment, et on a vu les doigts de pied de Brondino.
Et si
on
j'ai
a
bien
levé
compris,
le regard.
C'était pas le doigt de pied, c'était l'ongle.
L'ongle,
d'un doigt de pied.
L'ongle d'un doigt de pied. Et c'est vraiment, c'est tellement typique de Brondino, c'était incroyable, et on a levé le regard, on s'est trouvé en face de ce Christ perdu de Brondino.
Mais il y avait donc une étiquette à côté Brondino,
Non, il y avait, c'était un peintre anonyme florentin du XVIIe siècle.
Donc, on était assez loin de...
On était assez loin, et en fait, on a vu ce tableau que décrivait Vasari comme un grand chef-d'œuvre. Vasari, le contemporain.
Et qu'on pensait disparu?
Qu'on pensait disparu. Et qui était peint pour ces Panciatichi, ce couple de bourgeois florentins dont les deux portraits sont aux offices extrêmement célèbres, magnifiques. Et grâce à ce tableau, on a vu cette image d'une grande simplicité. Et ça nous a permis de re-regarder Brondino, qui n'était pas que un peintre de cour mondain.
Alors, j'imagine, parce que c'est amusant de prolonger un petit peu cette histoire, parce qu'elle est singulière. Personne ne vous a cru.
Personne nous a cru, tous les spécialistes de Brondino nous ont cru dans la seconde.
C'est encourageant.
C'est encourageant, mais c'était tellement évident en fait.
Mais comment ça se fait J'imagine qu'ils étaient déjà passés devant ce tableau dans leur vie.
Non, les spécialistes de Brondino, non. C'est pour ça, parce qu'on n'était pas nous deux
seuls
spécialistes.
Vous voulez dire que personne, aucun spécialiste ne va au musée de Nice?
Non, parce qu'on y va pour la peinture du 19e siècle. On n'y va pas pour les primitifs. Donc on peut, si on va à Nice, on va pour l'art contemporain,
pour Matisse,
l'art moderne. Et on oublie d'aller au musée Chéret, qui est un peu en dehors, c'est vrai. Et les autres, donc les personnes qui l'avaient vu, c'est-à-dire les personnes qui, dans les années 50, ont fait le recensement des collections françaises, étaient passées à côté, c'est vrai. C'est là où l'œil spécialiste, parce qu'on est quand même chacun spécialiste un peu de sa période, même si on arrive à tout regarder, l'œil spécialiste pouvait voir directement ce que les autres n'ont pas vu. C'est-à-dire on a revu le pinceau de l'artiste, avant tout, et la manière de faire les ongles. Alors c'est cette méthode morélienne détestée, critiquée par l'histoire de l'art.
Vous pouvez dire un peu qui est Morel?
Morelli, c'était le premier historien d'art du milieu du 19e siècle qui s'est servi pour retrouver l'identité italienne, enfin, dans ces révolutions des années 48, à passer par l'histoire de l'art pour retrouver l'identité de l'Italie.
Mais il avait une méthode d'observation assez...
Oui, c'est-à-dire, il disait, il faut classer, il faut reconnaître les oreilles, les doigts de nez,
c'était comme Bertillon.
Les manières de faire.
Ce que Bertillon a fait pour les criminels, Morelli
absolument.
L'a fait pour les tableaux. Hein.
Absolument. Et donc, évidemment, ce n'est pas très reconnu, mais en fait, inconsciemment, on se sert de cette méthode. Parce qu'on reconnaît... Après, évidemment, on retrouve le pinceau, le style, etc. Mais
pardon, un instant sur cette distinction que vous faites entre œil, ce qui est votre caractéristique et de quelques personnes que vous citez dans votre livre, vous en reparlerez.
Et bien d'autres, évidemment.
Et bien d'autres, évidemment. Et historien d'art. Tous les grands historiens d'art sont des œils. Berenson, Chastel et d'autres.
Comment dire? Berenson est surtout un œil. est-ce qu'on a essayé de le défendre en tant qu'historien d'art, mais ce n'est pas franchement un historien d'art, parce que lui, il a publié des listes où il mettait le nom des artistes par côté des tableaux sans expliquer pourquoi, sans baser de faire de théorie.
On se trompant assez peu quand même.
Il est un œil exceptionnel, absolument exceptionnel. Après, il y a toute une série d'œils qui sont comme moi, qui sont capables d'attribuer, mais qui sont des historiens d'art, qui ont été formels historiens d'art, et qui se servent de leurs attributions pour élaborer des théories. Comme on l'a fait grâce aux crises de Nice, par exemple. Ce qui a permis une vision complètement différente de l'artiste. Et puis après, il y a des grands historiens d'art, donc comme Chastel, qui a été probablement un des plus grands historiens d'art français, qui a fait des théories comme Daniel Arras, qui est pour moi un des maîtres et un homme que j'admirais énormément et qui était aussi un ami, qui n'était pas des œils. Loin de là, il le reconnaissait. Enfin, Daniel disait ça, c'est pour vous. Mais quand il avait besoin, il téléphonait, il me dit, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est vraiment d'un tel? Parce qu'il ne voulait pas non plus faire l'erreur, baser une théorie sur une mauvaise attribution. Voilà. Mais après, on ne sommes pas très nombreux, comme vous le savez, et on fait un tout. Alors, des ententes, on se dispute un peu.
Mais alors, ce qui est assez amusant, parce que je ne vous ai pas présenté, j'annonce que vous êtes le directeur du Palais Fesch, musée des Beaux-Arts d'Ajaccio, une des plus belles collections de France, si vous me permettez de dire que
de peinture italienne.
Et conservateur des musées de la ville d'Ajaccio. Vous êtes l'auteur d'une thèse en histoire de l'art consacrée à Pontormo. Ça tombe bien pour notre émission d'aujourd'hui, puisque c'est de lui dont il va s'agir. Que vous avez soutenu en 94, vous êtes un grand spécialiste de la peinture italienne, nous l'avons compris, particulièrement de la Renaissance florentine. Vous avez collaboré à de nombreux ouvrages, des expositions sur le maniérisme, sur l'art italien, sur Bronzino, etc.
Donc, et j'ai publié chez Gallimard le catalogue raisonné de Pontormo.
Mais alors, quand on est œil, il n'y a pas un titre. Sur votre carte de visite, il n'y a pas marqué conservateur des musées d'Ajaccio, œil.
Non. Non, en fait, on ne le sait pas. Ça se sait dans le monde des historiens, des collectionneurs, des marchands, évidemment, des maisons de vente, et on nous appelle. C'est pour ça. D'ailleurs, le mot, je me suis permis ce néologisme, enfin, avec Charles Danzig, qui est le directeur de la collection, parce que il n'y a pas de mot. On est des attributionnistes, et c'est absolument épouvantable.
C'est pas très joli, oui.
C'est pas très joli. Et le mot qu'on utilisait, c'est les connaisseurs, le connaisseurship, et on va pas utiliser de mot anglais.
C'est joli, n'empêche.
Oui, mais bon, on a une très jolie langue. Donc, on s'est permis ce néologisme, parce que voilà, on sont des œils.
Dans le livre que vous avez publié cet été, vous parlez, parmi mille autres histoires et anecdotes savoureuses, du tableau que nous allons voir aujourd'hui, qui est la fameuse déposition de Pontormo. C'est un tableau qui est important dans votre parcours ou pas particulièrement ?
Non, il est assez central plutôt quand même. Parce que, à force de travailler sur le XVIe siècle, à un moment, on m'a demandé de travailler sur Pontormo, d'écrire le catalogue raisonné de Pontormo. Bon, je faisais ma recherche. En fait, c'est un tableau que j'ai toujours évité au départ, et puis après, j'ai été confronté à lui. Je pense que c'est un tableau les plus importants. Ça m'a permis de comprendre le XVIe siècle italien, la maniera florentine, parce que je n'aime pas le mot maniérisme.
Mais alors, vous allez nous en parler. On en parlera d'ailleurs au cours.
En fait, c'est vraiment la quintessence de toute cette peinture. C'est-à-dire pour les couleurs, pour le sujet, pour la forme, en fait, parce que derrière il y a Michel-Ange et il n'y a qu'un seul homme qui compte au XVIe siècle, c'est Michel-Ange.
Plus que Raphaël.
Beaucoup plus que Raphaël. Raphaël meurt jeune, Michel-Ange meurt très vieux. Donc,
il a fallu le supporter. Voilà. Alors je vous propose d'écouter, cher Philippe Costamagna, la description que fait Giorgio Vasari de l'œuvre de Pontormo dans ses célèbres Vitae, les vies des meilleurs peintres et sculpteurs et architectes. Un texte de 1568, donc pas très longtemps après la création de cette œuvre, une quarantaine d'années. Et donc écoutons la façon dont il en parle à l'époque.
Peu de temps après, Lodovico di Gino Capponi, qui était rentré de Rome et avait acheté à Santa Felicita la chapelle que les Barbadori avaient fait faire à Filippo Brunelleschi, à l'entrée de l'église, à main droite, décida de faire peindre toute la coupole et d'y faire un retable avec un riche ornement. Il en conféra avec messire Niccolo Vespucci, chevalier de Rhodes, lequel était son ami intime. Et le chevalier, qui était aussi ami de Jacopo, et d'ailleurs connaissait le talent et la grandeur de ce grand homme, persuada Lodovico, à force de paroles et d'actions, de confier cet ouvrage à Pontormo. Il fit donc murer la chapelle, qui resta condamné 3 ans, et se mit à l'ouvrage. Dans le ciel de la coupole, il fit un Dieu le Père, avec autour de lui 4 patriarches très beaux. Et dans les 4 médaillons des pendentifs, il fit les 4 évangélistes, savoir 3 qu'il fit de sa main, et un entièrement par Bronzino. Je ne tairai pas à ce propos que Pontormo ne se faisait presque jamais aider par ses jeunes et ne leur laissait pas mettre la main à ce qu'il entendait travailler de sa main. Quand il voulait en employer, et surtout pour qu'ils apprissent, il leur laissait tout faire eux-mêmes, comme il fit ici pour Bronzino. Dans les ouvrages qu'il avait faits jusque-là dans la dite chapelle, on aurait presque dit qu'il était revenu à sa première manière. Mais il n'en fut pas de même dans le retable, car ayant de nouvelles idées en tête, il l'exécuta sans ombre et dans un coloris clair et si uni qu'à peine connaît-on la lumière de la demi-teinte et la demi-teinte des sombres. Dans ce retable est un Christ mort déposé de croix qui est porté au tombeau. On y voit Notre-Dame qui défaille et les autres Maries faites d'une façon si différente des précédentes que l'on voit clairement que ce cerveau s'en allait toujours à la poursuite de nouvelles idées et d'extravagantes façons de faire, sans être jamais satisfait ni s'arrêter à aucune. Bref, l'ensemble de ce retable est tout autre que les figures de la coupole et de même le coloris, et les quatre évangélistes, dans les médaillons des pendentifs de la coupole, sont bien meilleurs et d'une autre manière. Sur le mur de façade, où il y a la fenêtre, sont deux figures à fresque, savoir d'un côté la Vierge, de l'autre l'ange de l'Annonciation, mais contorsionnées l'une et l'autre en telle façon que l'on voit bien, comme j'ai dit, que la bizarre extravagance de ce cerveau n'était jamais satisfaite de rien. Et pour pouvoir faire à sa guise, et que nul ne lui vint rompre la tête, il ne voulut jamais, tant qu'il travailla à cet ouvrage, que le patron même la vit. De manière que, l'ayant fait à sa guise, sans qu'aucun de ses amis ait pu de rien la viser, il fut enfin découvert, à la stupeur de tout Florence. « Con maraviglia di tutto Firenze ». Giorgio Vasari, Vie de Pontormo, 1568.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'émission Les Regardeurs et nous examinons avec l'historien et œil Philippe Costamagna l'extraordinaire déposition de croix de Pontormo. Et on vient d'entendre Vasari qui dit que le moment où se sont ouvertes les portes, toute la ville de Florence a été émerveillée. Est-ce que c'était si surprenant, Philippe Costamagna, cette œuvre lorsqu'elle a paru?
D'abord, Vasari exagère un peu. Enfin, Vasari est contemporain, hein, admire Pontormo. Il aurait aimé probablement être l'élève de Pontormo. Il a été un des derniers élèves d'Andrea del Sarto, c'est-à-dire le maître Pontormo, le grand peintre du classicisme, si on peut parler de classicisme florentin. Il a un drôle de rapport parce que je pense que Pontormo n'a jamais voulu de Vasari, parce que Vasari n'est pas un très grand peintre, mais aux yeux de Pontormo en tout cas. Et puis après, il y a des rivalités politiques et religieuses aussi, je pense. Et donc, il l'admire. Mais ce n'est pas très long comme description par rapport aux longues descriptions que fait Vasari de toutes les œuvres florentines.
Elle n'est pas fausse, elle est très exacte et littérale.
Et l'œuvre a été très très importante pour Florence. Alors évidemment, quand on sait ce que représente cette œuvre, pourquoi elle a été faite, peinte et dans quel contexte, on comprend pourquoi Vasari en parle de cette manière juste après la Contre-Réforme. Pour dire que c'est merveilleux, mais en fait il ne parle pas du sujet, il ne parle pas de la raison de l'œuvre en fait. Et la véritable référence qui est en fait liée à ce qu'était la réforme de l'Église à ce moment-là et considérée en 1568 comme hétérodoxe.
Il faut se rendre compte qu'on est dans une période incroyablement troublée. Luther apparaît, les artistes allemands sont venus à Florence ou à Rome. Rome va subir son sac presque les mêmes années. Les Ottomans menacent.
Et la religion catholique vacille. Il faut bien le dire. Et c'est vrai qu'à un moment, on a pensé à une réforme de l'Église catholique, dans laquelle était la personne la plus, parmi les artistes qui était la plus engagée, était Michel-Ange, et tout un nombre de cardinaux progressistes. Et la ville de Florence, les Florentins, toujours gauchistes comme toujours, révolutionnaires dans l'âme, ont tous adhéré, et compris les grandes familles florentines, et même les Médicis, parce que même le... Bon, là, on est à l'époque de la République, mais après 1530 et le retour des Médicis, les Médicis sont même excommuniés par le pape Farnèse. Donc, ils sont en cherche. Et ce tableau, et dont le Caponi, qui est la personne qui commande le tableau, va dans cette nouvelle direction de l'Église, qui est vraiment l'adoration du corps du Christ. C'est une chose importante, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il dédie la chapelle à la Pietà. Et donc le sujet, quand on parle de ce principe, le sujet de la tableau, c'est une Pietà.
Alors, on va revenir là-dessus.
Oui, pardon.
Si je comprends bien, Caponi veut faire une chapelle funéraire dans une chapelle qu'il vient d'acheter dans cette église de la Sainte Félicité, une chapelle de Brunelleschi, c'est pas si mal, pour pas très cher, et c'était une chapelle de l'Annonciation. Et il décide d'en faire une chapelle funéraire pour lui-même, c'est bien cela ?
Absolument.
Et évidemment, médite sur sa propre mort et son propre salut, probablement.
Oui, et sur son propre salut, mais sur le salut aussi de la ville de Florence. Ils sont très très engagés, hein, ces gens. Et l'important, si le fait de changer et d'adhérer, de montrer cette chapelle qu'on ne montre pas, on va chercher Pontormo, ce qui n'est pas anodin.
Sur la conseil de qui d'ailleurs, parce que Pontormo était un petit peu reclus.
Non. Pontormo n'est pas reclus. Il est reclus à la fin de sa vie, c'est un vieux monsieur qui a des problèmes d'intestin. Mais jusque là, parce que
vous faites allusion à son journal, qui est un journal finalement presque une comptabilité de ses aliments et de ses réussites
et de ses défections
digestives.
Oui, voilà. Mais qui est très très intéressant. Mais pour un autre point de vue, je veux dire, c'est pour ça d'ailleurs, ça a été extrêmement mis en avant après la guerre de 40, enfin après les horreurs de la guerre de 40, c'est les artistes contemporains qui ont mis en avant ce journal. Bon, ça, c'est autre chose, et c'est formidable. Non, Pontormo était quelqu'un, je pense qu'Caponi était conseillé par Michel-Ange pour demander à Pontormo qui était quelque part son peintre à Florence.
Et donc il demande à Pontormo de se charger de la décoration de cette chapelle, et Pontormo s'enferme.
Selon Vasari.
Vous ne le croyez pas ?
Je pense que d'autres personnes voyaient le tableau. On pouvait rentrer, sortir. Probablement Vasari, on ne l'a pas laissé rentrer. Mais les autres, oui, d'autres artistes ont dû rentrer.
Le programme à ce moment-là du tableau, et on va venir sur l'examen de ce programme, est fait par le commanditaire, par l'artiste. Comment ça marche ?
Pour moi, c'est le commanditaire et des gens autour du commanditaire. Florence, vous savez, Florence est une ville extrêmement intellectuelle et tout le monde réfléchit, tout le monde écrit, tout le monde pense. D'ailleurs, on a créé à ce moment-là, quelques années, pas longtemps après, l'Académie Florentine, donc pour créer la première académie littéraire en Occident. Et donc, on a beaucoup, beaucoup d'écrits. On n'a pas d'écrits pour cette chapelle, mais c'est certainement les personnes, littéraires du monde des lettres autour de Caponi.
Alors, vous nous dites que ce tableau, qu'on va examiner en détail, mais je pense qu'il y aura un moment où il faudra sans doute l'examiner en relation avec l'ensemble des autres éléments de la chapelle, est un tableau de l'adoration du Christ.
Absolument, du corps du Christ, oui.
Qui est au centre, effectivement, mais qui est dans une position étrange. Il est comme pas encore livré à la terre, plus tout à fait sur les genoux de sa mère.
D'ailleurs, Vasari le dit bien, il ne décrit pas un moment, il ne parle pas de déposition. C'est nous qui parlons de déposition. Les Anglais parlent d'entombment, ce qui n'est pas la même
chose. La mise au tombeau.
La mise au tombeau.
Mais il n'y a pas de tombeau.
Il n'y a pas de tombeau.
Déposition, mais il n'y a pas de croix.
Il n'y a pas de croix. Et Vasari dit qu'au moment où on enlève le Christ de la croix pour le mettre au tombeau. Donc, au moins, c'est pour le mettre sur les genoux de sa mère qui tombe, qui s'évanouit. C'est un tableau eucharistique. C'est la représentation du corps du Christ, avant tout. Et en fait, pour moi, c'est une Pietà, parce que la chapelle est dédiée à la Pietà. C'est une Pietà dissociée, parce qu'on met ou on retire le corps des genoux de sa mère. C'est-à-dire, le modèle, c'est la Pietà de Michel-Ange, parce que si vous remettez le corps du Christ sur les genoux de cette femme...
Hommage à Michel-Ange qui lui a peut-être commandé, finalement, par l'intermédiaire
qui a suggéré le sujet. Et le modèle, c'est vraiment Michel-Ange.
Mais alors, il ajoute quelque chose, pour qu'on soit bien d'accord, parce que vous êtes passé rapidement sur ce mot dissociation. Il ajoute une idée sur cette Pietà, c'est que le corps du Christ n'est pas sur les genoux. Il est enlevé des genoux ou va être posé sur ses genoux, mais dans un moment intermédiaire. Et alors, ce corps, il est soulevé ou il est déposé ? C'est quand même important.
C'est là où on n'arrive pas. C'est vraiment le spectateur qui décide. Mais l'important, c'est qu'on voit, c'est le corps du Christ. Et c'est vraiment une image eucharistique. C'est...
Alors, tous les personnages ont les yeux rouges. La Vierge n'est pas tout à fait évanouie parce qu'elle a les yeux ouverts. Et je pense que c'était un débat théologique de l'époque, probablement.
Absolument. Non, non. Enfin, elle est vraiment en pamoison. C'est d'ailleurs, il y a tout un débat sur la pamoison de la Vierge qui commence à cette époque.
Vous pouvez nous dire un mot parce que le débat sur la pamoison de la Vierge, ça peut nous échapper.
Parce que, en fait, la Vierge, jusqu'à la réforme et que la contre-réforme, la Vierge était la mère du Christ, d'abord la Vierge à l'enfant, la femme qui a enfanté. Et après, la Vierge, c'est celle qui représente, qui accompagne les évangélistes, qui accompagne les apôtres.
Vous voulez dire qu'elle est solidaire de toute l'aventure du Christ.
De toute l'aventure du Christ. Mais la pamoison de la Vierge, c'est-à-dire le moment où elle tombe dans les pommes, quand elle reçoit le corps du Christ, c'est pour ça probablement on lui pose le corps du Christ à ce moment-là, dans ce tableau. Mais ça, c'est de la surinterprétation, parce qu'on n'a pas forcément la clé. Je pense qu'on, Caponi ne voulait pas qu'on le sache. C'était le modèle était.
Vous voulez pas qu'on sache quoi?
Qu'on sache si on posait le Christ ou si on levait le Christ du corps. Enfin voilà. Et donc cette pamoison.
C'est un grand débat justement d'historien d'art.
D'art.
Je voyais que les uns et l'autre sont pas d'accord. Pour certains, on le met au tombeau. Pour d'autres, on l'élève vers le Père éternel.
C'est pour ça que parler de déposition, c'était beaucoup plus simple. Mais et donc après, avec la contre-réforme. On accepte que la Vierge soit tombée dans les pommes.
Parce que la contre-réforme est un grand moment d'émotion. C'est l'émotivité qui est le sujet de la contre-réforme en vérité, non?
En fait, parce que dans ces années-là, dans les années où on nous parle, dans les années 20, 30 et 40, l'Église catholique, à un moment, allait dans le sens protestant. C'est-à-dire qu'on allait aller vers la suppression, plus ou moins, des intermédiaires. C'est-à-dire l'importance était avant tout le corps du Christ et la communion. Et avec la contre-réforme, disons, l'intolérance des protestants a fait que l'Église catholique est allée surtout sur le paraître, l'important était la suppression de la réflexion.
Emportée par les émotions, par les immenses coupoles, aspirer l'âme du visiteur.
Voilà, en fait. Et surtout, c'est pour ça qu'il y a les mouvements de tissus, etc., parce que, c'est-à-dire, c'est l'âme du Christ, de la religion qui circule et qui enveloppe les fidèles.
Cher Philippe Costamagna, il faudrait qu'on plonge encore un peu plus dans ce tableau, parce que, d'abord, il n'y a pas d'air. Comment ça se fait qu'il y ait pas d'air? Il n'y a rien autour des personnages, il n'y a que les personnes. Il n'y a pas de perspective, pas d'air. Pourquoi?
Alors, l'air est juste suggéré, à peine suggéré, par le nuage. Donc, on peut faire toute une théorie sur le nuage.
Alors, en haut à gauche, il y a un petit cumulus.
Cumulus.
Voilà, qui n'est pas très informatif. C'est pas comme le nuage de Mantegna avec des petits personnages à l'intérieur. C'est un nuage médiocre. Cumulus médiocris.
Voilà, qui stagne. C'est le seul élément terrestre de toute cette composition.
Vous m'étonnez parce que, en général, on considère, d'abord dire que le nuage est un élément terrestre, c'est assez étrange, audacieux. Ça, je vous reconnais bien là. Mais souvent, le nuage est au contraire le véhicule de la théophanie. C'est celui qui porte les dieux.
Oui, et là, non. D'ailleurs, vous dites, il est médiocre. Donc, il ne porte rien du tout.
Mais il ne veut pas rien dire, quand même.
Sûrement pas. Mais après, on peut faire toutes sortes de surinterprétations possibles. Mais si vous remarquez, il n'y a pas de paysage. Ce qui est quand même assez étonnant dans la peinture du XVIe siècle. Parce que si vous reportez à Venise, au tableau de Bellini...
Ou même à Raphaël.
Même à Raphaël, le paysage. Plutôt, ouais. Et ne parlons pas de Léonard de Vinci.
Ouais.
Il n'y a aucun paysage, si ce n'est ce petit nuage. Et ça renvoie une fois de plus à Michel-Ange, parce que Michel-Ange ne veut pas qu'on mette de paysage.
Vous ne croyez pas que c'est ce petit nuage, pardon d'y revenir, mais il m'inquiète. Vous ne croyez pas que c'est une sorte de voile qui existerait entre nous et le Père éternel qui devrait apparaître sur la coupole juste au-dessus? C'est pas justement ce moment de doute qui planerait au-dessus de notre esprit?
C'est une belle interprétation. On peut la considérer, parce que de toute façon, le problème, il y a une question de doute dans ce tableau, c'est évident. C'est-à-dire que Caponi exprime le doute par rapport à sa propre religion.
Mais alors, le doute, ça vous m'intéressez. Le doute qui apparaît dans ce tableau, il est spirituel peut-être, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une vie après, est-ce qu'il y a un Dieu, etc. Et il est probablement aussi très physique parce qu'on ne sait pas si, par exemple, il y a une étrangeté. Il y a deux personnages qui soutiennent le corps du Christ. Ils sont plutôt masculins, mais pas sûrs. Et surtout, ils sont pas très puissants physiquement, mais ils ont l'air de le supporter, ce corps du Christ, avec une légèreté incroyable. D'où vient l'absence de pesanteur de ce Christ?
Alors en plus, vous parlez de ses mains, c'est intéressant, parce qu'il y a une main qui ne correspond à rien. qu'on ne peut pas raccrocher au personnage qui serait ce personnage avec ce voile sur la tête.
C'est vrai qu'il y a une main en trop, on peut
dire. Il y a une main en trop. Mais ça n'a aucune importance, justement. C'est peut-être tout le côté extraordinaire de cette œuvre, parce que si on vous parlait de ça, mais on ne sait plus un moment quels sont là, quand on parle de chair, de vêtements, parce qu'ils sont, ils ont des espèces de collants roses.
Oui, c'est un peu ce qu'on met pour attraper des oursins dans la mer, bien collant, une sorte de.
Absolument, vraiment des couleurs absolument, complètement acidulées. Enfin, c'est une, il y a peut-être que les saintes femmes qui ont des espèces de grosses draperies, mais alors elles sont l'opposé de ces éphèbes, à la peau colorée, où elles ont des énormes draperies, ce sont des matrones. Enfin, le tout est extrêmement théâtral et loin de la réalité.
Est-ce que c'est ça, cette façon d'être loin de la réalité et proche du théâtre qu'on appelle le maniérisme?
C'est pour ça, c'est ça qu'on a défini. C'est ce tableau qui est, disons, la quintessence du maniérisme. Mais le mot maniérisme est terrible parce que c'est un mot qui a été utilisé au début du 19e siècle pour de façon péjorative.
C'est-à-dire tous les mouvements
cette chose maniérée
ont toujours été dit péjorativement. Les fauves c'était péjoratif, les cubistes c'était péjoratif.
Le maniérisme est péjoratif et ils sont partis.
Même le baroque peut-être. Ou pas.
Peut-être pas.
Cette perle
je connais pas l'origine du mot baroque d'ailleurs.
C'était pas une perle difforme.
Oui. Et là, c'est, si vous voulez, ils partent du mot maniera, du mot de Vasari, qui était la maniera moderna pour lui, ce qui était la chose la plus exceptionnelle. Et de cette maniera, les Italiens disent maniera, est devenu le maniérisme par les historiens allemands et autrichiens du 19e.
Alors, pour nos auditeurs, le maniérisme est un mouvement, on peut dire que Michel-Ange en est l'apothéose ou...
Michel-Ange en est l'apothéose, on le sait maintenant, parce que ses couleurs extrêmement acidulées, extrêmement fortes, sont les couleurs de la voûte de la Sixtine. Mais ça, on l'a su grâce aux restaurations récentes.
Qui ont été faites très récemment. Et donc, c'est un mouvement qui est après la Renaissance classique et avant le baroque.
C'est ce qui correspond à la réforme de l'Église catholique. C'est-à-dire, ça va des critiques de Luther jusqu'à la contre-réforme.
Alors, nous avons un ami commun qu'on va écouter, Daniel Arras. Il nous parle du maniérisme.
Il est employé, je crois, pour la première fois, maniérisme lui-même, à la fin du XVIIIe siècle, par Luigi Lanzi, dans son histoire de la peinture italienne, Historia pittorica dell'Italia. Et c'est évidemment un terme péjoratif qui condamne l'affectation qui ferait que les artistes, après Raphaël, eh bien, se seraient éloignés de la nature et, au lieu de la vérité de l'imitation, eh bien, auraient affecté les formes par, justement, la manière, l'artifice, la convention, etc. Bon, Lanzi n'est pas le premier à dire ça, hein. Lui, il crée le terme de maniérisme. Mais, dès le milieu du XVIe siècle, eh bien, il y a des critiques, contre Michel-Ange en particulier, de la part des Vénitiens, en disant que Michel-Ange est un art de manière, hein, des manières qui n'a plus la vérité de la nature. Alors, c'est très compliqué de juger, hein. Tous les termes de style, au départ, sont souvent critiques. Baroque, c'est pareil. Le terme de baroque est un terme péjoratif. Pour maniérisme, ça l'est extrêmement. Et, comment dire, revaloriser le terme est complexe parce que la critique n'est pas fausse, il faut bien dire, parce que, effectivement, les artistes européens du XVIe siècle, les artistes maniéristes, eh bien, pratiquent un art qu'on peut appeler artificiel. Et on le voit très bien quand on étudie chez Vasari, hein, le premier grand historien de l'art, justement, grand artiste maniériste au milieu du XVIe siècle, quand il passe insensiblement de ce qu'il appelle la bella maniera, la belle manière ou le beau style, qui est l'apogée de la Renaissance classique, avec Raphaël, etc., à l'arte di maniera, l'art de manière, l'art de style, qui est en fait le maniérisme. Alors bien sûr, lui n'a pas du tout l'idée d'une critique. Hein, il sait qu'il y a un apogée avec Raphaël, Michel-Ange et Léonard, mais en fait, les artistes di maniera se situent dans la ligne directe et dans l'imitation, la référence à la citation des grands artistes. Mais si bien que, au bout du compte, le maniérisme, c'est un art, on pourrait dire aussi au deuxième degré, au second degré. John Sherman, un de ses très bons spécialistes, l'a caractérisé comme un style stylé. Hein, a stylish style, très belle expression, et Montaigne lui-même, à la fin du siècle, commentant justement les formes d'art du XVIe siècle, dit « ils artialisent la nature, nous devrions naturaliser l'art ». Très belle formule, bien sûr, de Montaigne, qui se situe même comme grand écrivain maniériste, mais faisant le bilan du maniérisme et appelant à autre chose. Montaigne est passionnant de ce point de vue. Donc la critique ou la description du maniérisme comme art artificiel n'est pas fausse, mais elle reste pour moi, et pour beaucoup d'ailleurs, insuffisante, parce que, tout simplement, elle manque les enjeux de cette altération. Elle manque les raisons de cette stylisation, de cette artialisation de l'art. Et elle en reste un aspect, je dirais, purement extérieur, descriptif, en perdant, en ne s'intéressant pas aux raisons de la transformation.
C'était donc notre cher Daniel Arras, c'était dans Histoire de peinture, et il définissait le maniérisme. Vous êtes toujours à écouter Les Regardeurs, je suis avec Philippe Costamagna, le fameux œil et conservateur des musées d'Ajaccio, et nous observons l'extraordinaire déposition de Jacopo Pontormo qui se trouve à Florence. Et nous avons commencé à la décrire, et vous alliez nous parler de sa lecture, alors peut-être d'une façon plus reliée à l'ensemble de la décoration, parce que peut-être ce tableau, on ne peut pas le lire seul.
Absolument. En fait, c'est le centre, donc c'est l'Eucharistie, le tableau, mais le tout, en fait, c'est la chapelle évoque l'ascension de l'âme du défunt, l'âme de Gino Caponi. Et on le voit, elle est portée par la lumière qui traverse le vitrail qui aujourd'hui, en fait,
il y avait un vitrail, mais qui n'était pas une déposition. De Marcillac, c'est quelque chose.
Absolument, voilà. Guillaume de Marcillac, qui est vraiment la déposition.
Qui était fait un an auparavant, donc voilà. Qui était vraiment intégré, j'imagine, par
Programme.
Par Pontormo, il l'avait.
La déposition et la lumière passait à travers. Donc la lumière qui rentrait dans cette chapelle était une lumière colorée, une lumière presque, enfin aussi colorée que la retable. Et en fait, cette lumière était accueillie par le couple de l'Annonciation, par l'ange et la Vierge, qui faisait rentrer ce souffle, d'où le vêtement de l'ange qui vraiment bouge énormément. Et là, est presque baroque, d'ailleurs, dans son, on dirait, des anges du XVIIe siècle, avec la force de l'air, alors que la Vierge est beaucoup plus statique. Et en fait, cette lumière portait, en fait, allait sur le corps du Christ, bien évidemment, et remontait vers Dieu le Père, qui était au-dessus de la chapelle, qui a été détruit parce que la chapelle, en fait, a été. Le plafond s'est effondré, on le sait.
Alors, pour que vous compreniez bien, on a parlé du tableau, du grand rétable. Nous parlons de deux fresques qui se trouvent de chaque côté du vitrail, qui pour l'instant a été enlevé, mais qui aurait pu.
Qui est au palais Caponi.
Qu'on pourrait remettre, d'ailleurs.
Oui,
il faut le remettre.
Il faudrait.
Faites-le, Philippe, si vous le voulez bien.
Et vous expliquez au Caponi.
Et vous allez faire le lien avec le Père éternel qui devrait peut-être accueillir ce corps du Christ, non ?
Qui doit accueillir le corps du Christ à travers l'Eucharistie. Et donc c'est une chapelle consacrée d'ailleurs, et où on pouvait servir la messe. Et donc le corps qui est le corps du défunt, le corps de Caponi, était repris par Dieu, accepté au paradis. Donc c'était le message est assez simple. C'est une chapelle funéraire où on pouvait donner des messes pour le défunt. Et bon, les quatre évangélistes qui racontent toute l'histoire.
Mais j'imagine le.
Ils sont dans les tombes d'eau. Parce que tout ça est très beau, parce que c'est entre Pietra Serena. Cette pierre de Florence grise sur fond blanc. C'est ça qui est.
Oui, c'est vrai que c'est un espace très mental. Hein,
très mental, absolument.
Parce que Brunelleschi, on sent le mathématicien derrière l'architecture, hein, l'inventeur de la perspective.
Et c'est évident qu'un siècle après, Pontormo s'est servi de cette. Florentinité, parce que Pontormo est le peintre de la Florentinité.
Mais j'essaie d'imaginer un office avec ce Christ mort, ce qui est très protestant, c'est vraiment la réforme de Luther, et adorer le Christ mort, c'est en tant qu'homme, l'ecce homo.
Sans aucune intercession.
Avec l'hostie qui est le corps même du Dieu mort que l'on va donc qui va nous permettre la vie éternelle qui est élevé juste au-dessus de l'autel qui est sous le tableau. Est-ce qu'on pourrait pas dire, j'imagine l'ostentation du prêtre. Est-ce que ce n'est pas une ostentation du corps du Christ au fond
absolument,
de ce tableau?
Absolument, absolument. C'est ça. En fait, je vous dis, on
parle grand ostentoire.
On part de la Pietà de Michel-Ange, mais qui est dissociée. Et donc, c'est le point central de tout, c'est le corps du Christ, et c'est vraiment l'Eucharistie.
Et alors, en face, il y a l'Annonciation, c'est-à-dire que la Vierge apparaît au moment de la mort du Christ et au moment de sa conception. Et c'est une conception virginale. Est-ce qu'il n'y a pas une tradition entre le vitrail et la virginité traditionnelle ?
Ça, c'est vous qui le savez.
Pardon. J'y reviens parce qu'on en parle souvent, effectivement, surtout au Moyen-Âge. Panofsky a pas mal travaillé dessus. Et le vitrail traversé par la lumière sans être brisé est une allégorie de la virginité. Et au fond, il y a deux virginités. Il y a celle de la Vierge ici, et puis il y a le tombeau Vierge du Christ, puisqu'il va être déposé ensuite dans un tombeau Vierge, puisqu'un tombeau neuf, tel que on l'annonce également. Et donc, au-dessus, il y avait le Père éternel. Et donc on a l'impression qu'il y a une circulation, c'est beaucoup plus une installation au sens art contemporain.
C'est une installation, c'est absolument, parce que c'est vraiment ces chapelles, et en particulier celle-ci, est vraiment d'une grande pureté et conçue dans son ensemble. C'est pour ça que c'est toujours gênant, et vous avez raison d'en parler de la chapelle en entier, parce que c'est gênant de parler de ce tableau, les historiens adorent parler de ce tableau, mais de ne pas parler du tableau et de la chapelle. L'artiste s'est servi de la pureté de la chapelle, parce que même il a continué en trompe-l'œil à peindre des pendentifs pour prolonger l'architecture de la chapelle. Tout ça sur des murs blancs avec juste la Pietra Serena. Et cette grande simplicité, qui fascine d'ailleurs les artistes contemporains. C'est pour ça que Pontormo fascine les artistes contemporains. Beaucoup plus que Raphaël ou Léonard.
Raphaël est dans une provisoire disgrâce en attendant la grande exposition Raphaël, mais sous les yeux des artistes d'aujourd'hui.
Ah, absolument, ils adorent quand vous. Les artistes contemporains adorent Pontormo. Ils connaissent tous Pontormo. Ouais. Vous leur demandez si c'est un tableau de Raphaël, ils sont incapables. Contrairement au 19e où ils allaient à Rome, en Italie, pour copier Raphaël. Aujourd'hui, ils ne les voient plus, ils ne savent même plus, ils ne connaissent même pas les Raphaël du Louvre, je pense.
Dites-moi, j'ai une question, j'espère qu'elle ne vous choquera pas, mais j'ai cru lire que Pontormo avait une admiration profonde pour Dürer.
Oui.
Et que parfois on le critiquait comme s'il essayait d'imiter un goût allemand, alors que les Allemands venaient en Italie pour apprendre la qualité et la subtilité de l'art italien.
Oui, alors la critique vient de Vasari lui-même, en disant que Pontormo a été excessif dans son affection, son attirance pour les gravures de Dürer. Mais à ce moment-là, Pontormo n'était pas le seul, et toute une série d'artistes comme Lorenzo Lotto en Vénétie, Pontormo et d'autres artistes florentins, André Dal Sarto lui-même, prenaient Dürer comme référence, mais la référence à Dürer était vraiment marquée aux idées allemandes.
Dürer est arrivé en Italie à quelle période à peu près ?
Dans les années 20. Donc mais surtout, il y avait les gravures.
Les gravures circulaient énormément,
et les gravures de Dürer étaient recherchées. Et pour eux, et copier ou s'inspirer de Dürer, c'était quelque part adhérer aux idées venues d'Allemagne, c'est-à-dire à Luther.
Ah oui, donc c'était
profondément politique.
Oui, très politique.
Et donc, quand Vasari le met comme une hérésie esthétique, c'est un peu pour protéger l'œuvre de Pontormo, qu'il admirait quand même profondément.
Parce qu'on aurait pu le considérer comme une hérésie religieuse et donc politique.
Et vous savez, la grande fresque que Pontormo peint à la fin de sa vie, en même temps où il raconte son journal, parce que dans son journal, pendant ce temps-là, il peint la grande chapelle des Médicis, où il y a un véritable discours hétérodoxe. Vasari commente en disant « Je ne comprends pas ce qu'il y a représenté sur les murs », alors qu'il le savait très très bien, pour éviter la destruction.
Il essayait de dissimuler. Ce que vous voulez dire, c'est que Vasari dissimulait le sujet qu'il connaissait parfaitement bien, de ce qu'avait peint Pontormo, pour protéger Pontormo d'une éventuelle vindicte religieuse.
Non, pour protéger l'œuvre.
Pour protéger l'œuvre, oui. Qui aurait pu être détruite.
Qui aurait pu être détruite, alors qu'elle, du coup, a été plus regardée, parce que Vasari dit « je ne la comprends pas », et en fait, elle a été détruite par le temps. Mais elle aurait pu être détruite
par les hommes,
en 1564 par les hommes.
Les hommes sont insupportables. Je vous propose, puisqu'on continue notre aventure dans la déposition de Pontormo, dans la lecture de la déposition de Pontormo, d'écouter l'extrait d'un grand historien de l'art que vous connaissez bien. Vous ne voulez pas rencontrer personnellement, non. Je pense. Hein. Donc Frédéric Clapp, c'est un texte de 1916. Ceci explique cela.
Quand il y a quelques années, j'entrais de bon matin dans l'église Santa Felicita à Florence, je ne savais pas que je m'engageais dans une entreprise qui occuperait tous mes loisirs depuis lors. C'était l'automne, et j'imaginais, je m'y vois encore, que par une aussi belle journée, il serait peut-être possible de voir un retable que j'avais souvent scruté en vain dans l'obscurité de la chapelle Capponi. Je ne me trompais point. La lumière, entrant en biais par les vitraux supérieurs de la nef, tombait jusqu'à ce très sombre recoin, et pour la première fois, dans cet éclat fugitif, je vis vraiment la déposition de Pontormo. Ce fut une révélation inouïe. En examinant la peinture avec un ravissement étonné, je mesurais non seulement sa beauté, mais aussi l'aveuglement avec lequel j'avais épousé les préjugés de ceux pour qui Andrea del Sarto est le dernier grand artiste florentin, et tous ses contemporains plus jeunes, sans aucune exception, de simples éclectiques superficielles, dont Vasari a résumé l'œuvre dans ses fresques du Palazzo Vecchio. J'avais découvert Pontormo. Petit à petit, je surmontai l'oubli où il était tombé, et il devint pour moi une personne vivante. Sa solitude jalouse me plaisait, son dédain des mécènes, et la passion avec laquelle il avait caressé le fantasme d'une forme d'expression plus personnelle que ne peuvent le permettre sans doute les arts graphiques. Frédéric Mortimer Clapp, 1916.
Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute des Regardeurs. Je suis avec Philippe Costamagna, le conservateur des musées d'Ajaccio, et je viens d'entendre avec vous un texte de Frédéric Clapp qui décrit sa découverte de la déposition de Pontormo que nous examinons aujourd'hui. Et Philippe, nous avons entendu Clapp découvrir Pontormo, mais au fond surtout se découvrir à lui-même une nouvelle passion.
Absolument, mais il faut savoir que Clapp était aussi poète. Et écrivain et
ce qui rend plus difficile la traduction que vous avez faite.
Oui,
c'est vous qui l'avez traduit ce texte,
absolument.
N'est-ce pas?
Et donc Clapp s'invente un personnage de lui-même, il se transforme en personnage aussi. Comme il fait de Pontormo un personnage, parce que ce sont les premiers mots où on dit que Pontormo est quelqu'un de retirer, reclus, ce qui n'était pas forcément le cas, qui ne répond.
Il va quand même falloir que vous nous racontiez un petit peu la légende de Pontormo, parce que qu'il soit tourmenté, on a l'impression de le sentir dès le début, dès ses premières œuvres. Il s'enferme, il met du temps à finir. On dit souvent qu'il a détruit sa vie. Quelle est la vérité de tout cela?
Alors moi, ayant vécu pas mal d'années avec Pontormo, peut-être à tort, mais je l'ai représenté un peu comme un personnage de son temps. C'était extrêmement engagé dans toutes les causes politiques. Il faut savoir que vous savez que Florence a subi le siège des armées de l'empereur Charles Quint. Florence a toujours été du côté du parti français et tous les artistes sont tous engagés. Et Pontormo le premier.
On n'a pas bien réussi à défendre ni Florence ni Rome d'ailleurs,
non.
Les Français. Hein.
Quand Clapp dit qu'il est difficile avec ses commanditaires, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il a quand même un nombre de commanditaires très important, avec qui même il était anti-Médicis, il travaille pour les Médicis. Disons, il était très contre Lorenzaccio, celui qu'en français on appelle Lorenzaccio, Laurent de Médicis. Mais après, avec Côme, il est très enthousiaste, il répond à toutes ses commandes. Il travaille pour toutes les grandes familles florentines, les Caponi, les Pucci, les Antinori. Il est, je pense, comme ses collègues florentins. Bon, il les connaît tous, parce que parfois on peut lire par des anglo-saxons. Peut-être se connaissait-il, peut-être ne se connaissait-il pas. Vous voyez, dans les grandes villes aujourd'hui, tous les artistes se connaissent. Vous imaginez, à Florence, à cette époque, c'était une ville de 20 000 habitants. Tout le monde, les artistes se connaissaient. Enfin, ils se disputaient toute la journée. Et Pontormo participait à toutes ces discussions. C'était un intellectuel, mais tous les artistes florentins étaient relativement intellectuels. Il a très bien
connu. Vasari dit tout le temps qu'il se torture le cerveau, qu'il va chercher de nouvelles idées. Qu'il est enflammé par la spéculation, non?
Vasari, peut-être le moins intellectuel de tout le lot. Vasari, d'ailleurs, il y a une anecdote formidable d'un élève de Pontormo, parce que Pontormo a eu des élèves, contrairement à ce que dit Vasari.
Dont Bronzino, qui est quand même un immense élève.
Et un autre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Iacone, qui était un jour, Vasari rentre très vêtu parce qu'il travaillait du coup pour la cour avec des brocarts, des fourrures, des bijoux. Et il rentre par la porte de Rome et il voit un clochard par terre qui était un de ses copains de jeunesse, qui est un ancien et qui est un artiste. Et l'autre lui dit, mais tu te rends compte comme tu es devenu, et il dit, je préfère vivre à la Philosophica de manière philosophique plutôt que comme toi de parvenu. Donc c'était, vous voyez, c'était pas que Pontormo, on était des philosophes, on écrivait, les artistes ont participé.
Là c'est la version Diogène de la philosophie, oui. Ce que vous décrivez, hein.
On était des cyniques. C'est un peintre formidable, Biacone, très beau peintre.
Et dites-moi quand il a commencé sa carrière, on parle parfois du pauvret, on l'appelle le pauvret. J'ai entendu cette expression déjà. Il a si mal commencé ou si misérablement?
Non,
ou...
plutôt misérablement, parce qu'il était, en fait, il n'avait pas de parents. On l'a mis un peu chez Léonard. C'est pas une belle.
On a expliqué à cause de cela la réussite de La Chapelle dont nous parlons, parce que comme si la mélancolie de l'orphelin, comme ça, ajoutait à cette tristesse pathétique.
C'est probable. C'est peut-être qu'il est arrivé cet artiste. Il y a une émotion dans les œuvres de Pontormo, dans toutes les œuvres de Pontormo, même dans les portraits. Je veux dire, il arrive à influer la vie dans les portraits.
Et dans celui-là dont nous parlons, il y a son autoportrait d'ailleurs.
Il y a son autoportrait, c'est le seul qui assiste, c'est le seul personnage. Et il est, effectivement, là, il a un visage mélancolique en plus.
Très mélancolique, une sorte de Jacques d'Arimathie. Il est en Joseph d'Arimathie, c'est ça?
Oui, absolument. Mais bon, parce qu'on les autoportraits étaient en Joseph d'Arimathie à Florence à ce moment-là.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que quand on fait son autoportrait, c'est sous ce trait-là, de façon conventionnelle?
Absolument.
Et pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il y a aussi dans les gravures de Dürer d'ailleurs. Mais bon, Dürer qui s'est énormément représenté en autoportrait, il s'adorait.
Alors que Pontormo est moins narcissique, parfois il aura plutôt tendance à s'enlaidir, à se vieillir.
Et il y a quelques dessins où c'est assez courant, c'est-à-dire on le voit en caleçon en train de se dessiner, par exemple. Parce que les dessins, Pontormo est un très grand dessinateur, et Clapp le dit, il est fasciné par les dessins de Pontormo, et les dessins de Pontormo sont d'un naturalisme absolument exceptionnel. Enfin,
alors, je vous ai coupé dans le récit de sa vie, c'était sinistre, il venait de perdre sa sœur, sa mère, son père.
Absolument.
Et puis...
Et donc on le met à Florence chez Léonard, qui le met après chez d'autres autres artistes.
Et comment ça se fait qu'il passe si vite chez l'un et chez l'autre? Piero di Cosimo...
Oui, parce que les uns s'en vont, Léonard s'en va, Piero di Cosimo est un vieux peintre, après il passe chez Albertinelli, qui le met chez André del Sarto...
Pas si mal comme passage en même temps.
C'est extraordinaire, il a connu les plus grands artistes, et tous probablement des artistes tous intellectuels, en fait, qui réfléchissaient, où c'était des ateliers dans lesquels on parlait beaucoup. On avait, donc il a été formé à la réflexion. C'est une... voilà, puis après, donc, il devient ce grand peintre florentin, le grand peintre florentin, et il devient même le pinceau de Michel-Ange à Florence.
Mais il paraît qu'on lui demande tout de suite, très jeune, une très grande décoration. Est-ce que c'était pour le pape à 20 ans ou...
Absolument. C'est qu'il fallait, pour la venue du pape Léon X à Florence, il fallait que toute la ville soit décorée. Donc on a pris tous les gens qui étaient capables de peindre, donc dont les petits enfants, les petits jeunes, ce qu'on appelle les garçons et d'atelier. Et on lui a demandé dans la chapelle du pape, à Santa Maria Novella, de faire une fresque. Et évidemment, toujours selon les mots de Vasari, tout le monde a été épaté. Des dons de ce jeune homme.
C'est pas mal.
C'est formidable.
Et est-ce que, donc, parfois on dit, mais il n'a cessé ensuite de se dégrader, de se laisser aller, c'est vrai?
Non. Disons qu'il est malade à la fin de sa vie, et il a des problèmes donc digestifs, enfin, et donc il essaye de savoir ce qu'il faut manger pour aller bien. Donc il dit, j'ai mangé 3 œufs, ça s'est bien passé aujourd'hui, j'ai mangé 6. Donc il écrit pour savoir, en fait, probablement un médecin lui a dit écrit.
Son journal n'est que cela, c'est assez extraordinaire.
Ce n'est que cela. Alors on pense qu'il se coupe du reste mais pas du tout, parce qu'il peint à ce moment-là. Il peint pour les Médicis. Donc avec,
Il y a quelques anecdotes terribles aussi, c'est quand, par exemple, pour représenter des corps morts, il prend des fragments de corps qu'il trempe dans l'eau et ça empoisonne tout le quartier.
Oui, mais ça se fait depuis la fin du XVe siècle.
C'est un plaisir de peintre.
C'est un plaisir de peintre, surtout la décomposition. D'ailleurs, le Christ de Nice dont on a parlé au début, Vasari dit de la fête d'après un corps mort, et c'est pour ça que l'œuvre est absolument extraordinaire. Donc, l'autre élève de Bronzino, Allori, dont Pontormo parle dans son journal, parce qu'il adore ce petit qui vient régulièrement, il le trouve absolument charmant. Il faut savoir que Pontormo aimait les garçons en plus, donc lui-même, lui alors c'était terrible parce qu'il vivait presque à côté de l'hôpital et vivait auprès des cadavres.
On est pourtant dans une période de peste, non?
Oui, absolument. Mais même à un moment, Pontormo s'enfuit à la Chartreuse, où il fait ce décor absolument magnifique à la Chartreuse, à l'entrée de Florence, tout inspiré des gravures de Dürer, justement.
Cher Philippe Costamagna, quelle va être votre prochaine découverte? Un œil aimerait bien savoir ce qu'il va rencontrer.
Non, c'est ça qui est formidable dans nos passions, c'est qu'on découvre le jour où on s'y attend pas. C'est-à-dire, on va voir évidemment, on espère toujours faire des grandes découvertes, donc on va toujours voir les choses qu'on nous propose. Alors, on en voit des croûtes. Hein.
Mais j'imagine que des dizaines de personnes vous disent, dans mon grenier j'ai vu, c'est forcément un chef-d'œuvre.
Et on va les voir.
Et vous y allez, c'est ce que vous racontez dans votre livre, vous y allez presque à chaque fois.
Alors, on n'est pas très gentil, parce que des fois on nous écrit, on répond pas forcément, parce que des fois on est tellement, on sait pas quoi dire, tellement la chose est laide. Mais on a fait moi j'ai découvert un autre tableau de Bronzino qui était un fragment complètement repeint et la main qui n'était pas touchée en fait a permis de, j'ai compris que c'était une œuvre de Bronzino, on a fait nettoyer l'œuvre, etc. Et c'était le fragment de la chapelle d'Éléonore de Tolède qui était perdu, qui représentait Saint-Côme, mais tout ça par un petit détail, c'était une croûte et j'aime
parce, rappeler... parce que les restaurateurs sont parfois des ennemis dans votre identification.
Oui, et puis surtout, ils ont des repeints, il y a le goût des époques, on cache des choses qui sont pas normales, ou on cache, quand les enfants Jésus, par exemple, dans les Madones étaient peints, on colle des draperies dessus, les tableaux s'abîment, alors, plutôt que de nettoyer, on repeint un petit peu au 17e, au 18e, au 19e. Alors, il y a des couches et des couches et des couches, là où la science nous sert pas, parce que c'est trop de couches. Et à un moment, par chance, par exemple, le cas de ce Saint-Côme, de la chapelle d'Éléonore de Tolède, en dessous, tout était presque parfait, à part qu'il était fragmentaire. Et comme ça, un jour, mon professeur Sylvie Béguin trouvait derrière une croûte absolument immonde et complètement repeinte d'un ange aux yeux révulsés, un tableau de Raphaël qui est rentré au Louvre.
Quelle chance. Philippe Costamagna, je vous souhaite une chance équivalente. C'est vraiment un métier merveilleux et un don que vous avez et que vous partagez avec quelques-uns. Merci beaucoup.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons commenté la déposition peinture à l'huile sur bois datant de 1526 réalisée par le peintre toscan Jacopo Pontormo. Elle est visible dans la chapelle Caponi de l'église Santa Felicita de Florence. Et nous étions en compagnie de l'œil et grand historien de l'art Philippe Costamagna. Et je vous signale donc son très beau livre Histoire d'œil édité chez Grasset et qui est paru en avril 2016. La semaine prochaine, nous observerons ensemble la descente de croix de Van der Weyden. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr, qui est cultivé, développé par notre attachée d'émission, Sylvia Favre. Lecture des textes, Hélène Losseur. À la technique, Jean-Richard Dufour. Réalisation, Franck Lilin, évidemment. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam. Merci Sandra d'avoir préparé si bien cette émission. Et Jean Deloisy. You go back. Go until you come babe. Come until you go. To go by.
to be my bed. Goes me.